Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Chloé James, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Alors, le 16 mai 2006, une première séance a été réalisée avec succès par Pascal Cossard à l'Académie des sciences sur les 6 avancées majeures en biologie. Et parmi une cinquantaine de dossiers qui avaient été envoyés pour cette fameuse journée, 6 ont été retenus et le vôtre, en l'occurrence, a été sélectionné. Vous avez pu donc présenter vos travaux devant les académiciens des sciences et vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de votre directeur de recherche, William Weinschenker, si je prononce bien. Je prononce bien, apparemment. Donc, vous êtes docteur en médecine, spécialiste en hématologie clinique. Vous travaillez à Bordeaux et vous collaborez au laboratoire situé à Villejuif, à l'Institut Gustave aussi à l'université Paris 11, si je ne m'abuse. Alors, quel était votre sujet que vous avez pu présenter à l'Académie des sciences ce fameux 16 mai 2006, Chloé James?
Alors, nous avons présenté ce jour-là, en fait, un travail qui a permis de mettre en évidence la cause d'une maladie sur laquelle le laboratoire travaillait déjà depuis de nombreuses années. Cette maladie s'appelle la maladie de Vaquez. Elle se traduit, en fait, chez les patients par une augmentation des globules rouges dans le sang. Et cette maladie appartient à une famille qui regroupe plusieurs maladies. Cette famille s'appelant les syndromes myéloprolifératifs. Donc c'est la moelle qui prolifère trop.
Donc c'est une maladie génétique ?
Non, c'est une maladie qui est acquise. En fait, elle touche des patients en général qui sont âgés entre 40 et 60 ans au diagnostic. Donc c'est pas une maladie génétique au sens où on est avec. C'est pas une maladie congénitale, ce qu'on entend souvent par maladie génétique. C'est une maladie qui est acquise au cours de la vie. Et qui a effectivement son origine dans une anomalie au niveau d'un gène. Et donc ce gène, c'est le gène qui code pour JAK2.
Alors, nous allons pouvoir parler plus en détail de cette maladie, mais on parlera aussi d'autres maladies qui en dépendent apparemment.
Voilà.
Qui sont, alors vous allez pouvoir peut-être le dire mieux que moi, parce que je pense que je vais les écorcher, c'est
la thrombocytémie essentielle et la myélofibrose idiopathique.
Voilà, donc on aura aussi l'occasion d'en reparler. Mais alors, ce sont des maladies qui touchent beaucoup de personnes ou au contraire, ce sont peu de gens?
C'est des maladies relativement rares. L'incidence annuelle est estimée à peu près 2 à 3 cas pour 100 000 habitants et donc par an. Donc ce sont des maladies relativement rares et qui touchent plutôt des personnes dans une deuxième moitié de vie, on va dire, donc 50, 60 ans à peu près.
Et pour lesquelles on avait déjà des traitements ou au contraire on connaissait très peu?
Alors,
quel était l'état actuel des choses?
Pour ce qui est de la maladie de Vaquez, il y a effectivement des traitements, ce qui fait que cette maladie est assez bien contrôlée chez les patients. Alors un des traitements qui peut paraître archaïque mais qui est pourtant toujours pratiqué, ce sont les saignées. Voilà, où en fait... Les patients ont à peu près tous les mois, en fonction en fait de leurs besoins, des saignées de 400 ml de sang. Ça se passe exactement comme un don du sang classique. Donc il y a ce traitement-là qui était prodigué. Également, on pouvait donner des médicaments qui se prennent par voie orale, des comprimés, donc soit tous les jours, soit tous les deux jours, en fonction des patients.
Donc ce sont des maladies chroniques de la moelle, c'est ça ?
De la moelle osseuse.
De la moelle osseuse, et dont l'activité de la moelle osseuse est excessive tout en restant qualitativement normale.
Voilà, exactement.
Je reprends la définition qu'on m'a donnée. Hein.
C'est-à-dire que la moelle osseuse, elle fonctionne trop, mais toutes les cellules qu'elle produit sont des cellules normales. Donc c'est juste qu'il y a une hyperactivité de la moelle osseuse. À la différence des leucémies aiguës, où là la moelle fonctionne trop, mais par contre elle produit des cellules qui sont anormales.
Donc elles font partie quand même du groupe des maladies des leucémies ou...
Oui, on peut considérer ça comme des leucémies. Parmi cette famille donc, de syndromes myéloprolifératifs, il y a une maladie qui est déjà très très bien connue, qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique. Donc le terme leucémie est employé. Cependant, il ne faut absolument pas confondre ces maladies avec des leucémies aiguës, qui là sont véritablement des cancers assez fulgurants.
Et ne pas croire qu'avec des saignées, on pourra être traité pour une leucémie
aiguë. Voilà.
Oui, oui. Alors revenons à la maladie de Vaquez. Donc effectivement, elle était connue, on avait un traitement archaïque, on vient de le dire, les saignées. Mais alors vous, quel a été votre travail dans la découverte de quelque chose de particulier? Mais en quoi vos travaux ont fait avancer les choses, si je puis dire?
En fait, le laboratoire dans lequel on a réalisé cette découverte, travaillait déjà pour essayer de comprendre la cause de cette maladie depuis plusieurs années. Et en fait, il avait été bien montré que dans cette maladie, certes, la moelle travaillait trop, mais surtout, en fait, un compartiment de la moelle qui est la production des globules rouges, qui là se faisait vraiment de façon excessive et avec une différenciation des globules rouges qui se faisait de façon anormale. Et donc, en travaillant spécifiquement sur la voie de différenciation des globules rouges, les gens qui travaillaient dans ce laboratoire avaient pu mettre au point certains modèles qui ont permis d'étudier plus particulièrement cette voie et qui ont permis de cibler le travail sur JAG2. En particulier, ce travail a été réalisé par Valérie Hugo.
Alors, JAG2, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots dessus.
Voilà, donc en fait, JAG2, c'est une protéine qui est donc intervient dans la cellule,
oui,
dans la signalisation du récepteur à l'érythropoïétine. C'est-à-dire que en fait, l'érythropoïétine, quand elle se fixe sur son récepteur, la protéine JAG2 est très importante pour que la signalisation du récepteur puisse se faire. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mutation au niveau du gène qui code pour JAG2, ce qui fait que la protéine, elle est constitutivement active et qu'il n'y a donc plus besoin que l'érythropoïétine se fixe sur le récepteur pour que la signalisation se fasse. De façon constitutive, même sans érythropoïétine, le récepteur fonctionne.
Elle est programmée, en fait, pour qu'au bout d'un certain moment, à une certaine durée de vie, elle se mette à produire des globules rouges en plus grande quantité ?
Non, en fait, les récepteurs sont de toute façon sur les cellules, mais normalement, pour que la voie du récepteur à l'érythropoïétine s'active, il faut que l'érythropoïétine se fixe sur le récepteur. Mais là, comme la protéine JAG2 est constitutivement active, il n'y a même plus besoin que l'érythropoïétine se fixe sur le récepteur. Donc toutes les cellules qui vont exprimer à leur surface un récepteur à l'érythropoïétine, dans cette maladie, la signalisation par le récepteur va se faire sans qu'il y ait besoin d'érythropoïétine. Ce qui fait que ces cellules sont indépendantes à l'érythropoïétine. Et ce phénomène avait déjà été remarqué dans cette maladie depuis de très nombreuses années.
Et alors, vous êtes arrivé en faisant une hypothèse particulière, c'est ça, concernant
ces phénomènes-là ? Alors, l'hypothèse n'a pas été formulée par moi directement, mais par mon directeur de recherche, où effectivement l'hypothèse était qu'il y ait une anomalie au niveau de JAG2, dans cette maladie, puisqu'il avait été remarqué que les cellules pouvaient se différencier sans érythropoïétine et qu'on savait que JAG2 était très important dans la voie de signalisation du récepteur à l'érythropoïétine.
Donc
l'hypothèse était effectivement qu'il y ait une anomalie au niveau de JAG2. Cette hypothèse, donc, nous l'avons testée par différents abords complémentaires qui ont tous permis de mettre en évidence l'implication de cette protéine. Et l'abord qui a le permis vraiment de confirmer la présence d'une anomalie était de séquencer le gène et de voir qu'effectivement, il y avait une mutation au niveau du gène qui était retrouvée chez la très grande majorité des patients qui présentent cette maladie.
Mais alors, là, vous le dites en très peu de temps, mais je suppose que toutes ces démarches ont nécessité peut-être plusieurs années de travail.
Alors, à partir du moment où l'hypothèse que JAG2 pouvait être impliquée, à partir de ce moment-là, en fait, il a fallu à peu près un an et demi de travail pour en faire la preuve. Par contre, effectivement, ce qui a été très long, ça a été avant d'étudier la voie du récepteur à l'érythropoïétine dans cette maladie, de réaliser un modèle de culture pour étudier différents inhibiteurs. Tout ça, c'est un travail qui a été réalisé au préalable dans le laboratoire. Oui, effectivement, pendant de nombreuses années.
Et alors, comme on venait de le dire au début de cette émission, d'autres maladies ressemblent, ou en tout cas le même schéma.
Voilà.
Alors, est-ce que ça voudrait dire que cette protéine, JAG2, jouerait également un rôle important dans la thrombocytémie et la myélofibrose idiopathique ?
Voilà, très bien.
Merci.
Effectivement, donc la maladie de Vaquez appartient à la famille des syndromes myéloprolifératifs. Et donc dans cette famille, il y a principalement quatre maladies. Une maladie qu'on peut mettre à part, qui est la leucémie myéloïde chronique. Alors on peut la mettre à part parce qu'en fait, cette maladie est très bien connue et très bien caractérisée sur le plan moléculaire depuis une quarantaine d'années.
Et bien traitée.
Et effectivement, comme en fait, depuis longtemps, on connaissait l'anomalie moléculaire de cette maladie, l'industrie pharmaceutique a pu développer des médicaments qui inhibent spécifiquement cette anomalie, ce qui fait que maintenant, cette maladie est relativement bien traitée. Et donc, dans cette famille de syndromes myéloprolifératifs, il y a également trois autres maladies. Donc, la maladie de Vaquez dont on vient de parler, la thrombocytémie essentielle, qui, elle, se caractérise par une augmentation des plaquettes dans le sang des patients.
Mais qui en soi pourrait devenir négatif, pourrait nuire à la personne?
Oui, parce qu'en fait, quand il y a trop de plaquettes, donc le chiffre de plaquettes normal est en dessous de 450 000 plaquettes par millimètre cube. Et en fait, chez ces patients, on retrouve souvent 1 million de plaquettes. Donc, c'est plus de deux fois plus du chiffre normal. Et en fait, cette augmentation des plaquettes entraîne principalement un risque de thrombose, que ce soit artérielle ou veineuse. Donc, des thromboses qui peuvent être très graves, voire même mortelles.
Alors, il faudrait qu'ils donnent leurs plaquettes, peut-être pour des personnes atteintes de leucémie.
Oui, mais bon, on ne va pas donner à des gens qui ont besoin de plaquettes des plaquettes qui ne sont pas forcément normales. Oui. Donc, malheureusement, ça ne marche pas comme ça.
Donc ça, c'est pour
et
la
puis
la
même s'ils donnent leurs plaquettes, en fait, comme la moelle en produit en excès, il faudrait qu'on leur en prenne vraiment très souvent. Mais c'est exactement le principe des saignées, c'est que la moelle produit trop de globules rouges dans la maladie de Vaquez, et donc on fait des saignées pour enlever des globules rouges, enlever du fer, ce qui fait que la moelle va avoir plus de mal à se reconstituer.
Donc pour la thrombocytémie, par exemple, quels sont les traitements actuels?
Alors,
ce sont des saignées ou justement autre chose?
Non, voilà, c'est pas des saignées, parce qu'en plus, les saignées, ça enlève certes quelques plaquettes, mais surtout des globules rouges, et surtout, ça fait augmenter les plaquettes, parce que ça enlève du fer. Mais enfin bon, c'est un autre un peu compliqué. Non, le traitement de la thrombocytémie essentielle, c'est surtout des médicaments qui permettent de freiner l'activité de la moelle, comme la moelle travaille trop. Donc on donne un médicament qui freine, qui s'appelle l'hydroxyurée. C'est un des traitements qui est employé. Et on donne également de l'aspirine, ce qui fait que ça empêche les thromboses.
Voilà. Et donc la myélofibrose idiopathique, peut-être que vous pourriez également nous dire quelques mots sur ce thème un peu barbare.
Alors la myélofibrose idiopathique, donc, elle appartient aussi à la famille des syndromes myéloprolifératifs. Alors cette maladie est un petit peu différente. Dans le sang des patients en général, on trouve trop de globules blancs. Et en fait, quand on regarde la moelle est complètement fibrosée, complètement comme si elle était un petit peu desséchée. Ce qui fait que ce qui se fait normalement dans la moelle, donc la production des cellules du sang, la fabrication des cellules du sang, ça s'appelle l'hématopoïèse. Et donc l'hématopoïèse qui se fait normalement dans la moelle ne peut plus se faire puisque la moelle est complètement fibrosée.
Parce qu'à la base, donc, la moelle, c'est quelque chose de poreux, comme vous avez pu l'expliquer avant de commencer l'émission.
Alors, on peut prendre l'image d'une éponge pour la moelle osseuse, où en fait, une éponge, quand elle est mouillée, c'est un petit peu donc, comme si la moelle était bien vascularisée, avec plein de vaisseaux, et dans les trous de l'éponge, en fait, il y a toutes les cellules du sang qui sont en train de se former. Et en fait, on peut imaginer que la myélofibrose, c'est un peu comme quand l'éponge est desséchée, où donc tout est extrêmement fibrosé et moins vascularisé, ce qui fait que les cellules vont plus du tout être irriguées et donc l'hématopoïèse ne peut plus se faire dans la moelle.
Et alors là également, est-ce qu'il existe un traitement? Est-ce qu'on traite très bien la myélofibrose ou c'est un peu plus compliqué?
La myélofibrose, c'est un peu plus compliqué. Donc la moelle étant fibrosée, l'hématopoïèse ne se fait plus, ou en tout cas mal. Alors dans ces cas-là, l'hématopoïèse peut se développer dans la rate, et éventuellement également dans le foie. Et donc, en fait, la moelle étant fibrosée, l'hématopoïèse ne se faisant plus bien, il n'y a plus assez de cellules du sang qui sont produites. Donc là, en fait, c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe dans les autres maladies, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trop de cellules dans le sang, là, justement, on n'en a pas assez. Il y a ce qu'on appelle une pancytopénie, où l'ensemble des cellules sanguines n'est pas assez représenté. Donc là, au contraire, le traitement, ça va être des transfusions. Donc comme les cellules du sang ne sont pas assez produites, il faut en donner aux patients, donc des transfusions de globules rouges, des transfusions de plaquettes.
Et alors là, dans ces deux types de maladies, myélofibrose idiopathique ou donc la thrombocytémie, ce sont également des maladies qui interviennent à partir d'un certain âge, 40, 50, 60 ans.
En général, ça touche des personnes effectivement en deuxième moitié de vie.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Chloé James, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de français à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Suite de notre éclairage en compagnie de Chloé James, qui est docteur en médecine et travaille dans un laboratoire sur le domaine de la maladie de Vaquez, mais également d'autres maladies qui sont liées ensemble, la thrombocytémie et puis la myélofibrose idiopathique. Alors, avec vous, Chloé James, nous allons pouvoir évoquer un autre angle de ce sujet. Vous travaillez sur des prélèvements sanguins. Comment ça se passe? Ce sont des volontaires, des personnes qui sont déjà malades, qui sont atteintes de ces maladies, qui vont donner de bonne grâce leur prélèvement sanguin pour que vous puissiez travailler dessus. Comment ça se passe?
Alors, en fait, en général, donc, on travaille effectivement sur des prélèvements sanguins, mais également des prélèvements de moelle osseuse. En fait, quand les patients, c'est souvent des prélèvements au diagnostic, c'est-à-dire que les patients ont une suspicion de cette maladie, viennent voir en consultation un médecin, puisqu'ils sont envoyés par leur médecin traitant en général, pour savoir si éventuellement ils n'auraient pas cette maladie. Et donc là, pour faire le diagnostic, il est nécessaire de prélever en général de la moelle et également du sang. Et donc, on demande toujours aux patients leur accord pour si éventuellement il reste des cellules, une fois qu'on a fait les tests qui sont nécessaires à faire pour le diagnostic, on puisse utiliser ces cellules qui restent pour faire de la recherche. On ne prélève pas en plus du sang ou de la moelle au patient pour faire de la recherche. On le prend avec ce qui reste pour faire les examens qui de toute façon sont nécessaires pour eux pour faire le diagnostic.
Donc en cela, vous travaillez en étroite collaboration avec les hôpitaux de Paris,
tout à fait.
Je suppose.
Vous avez notamment le laboratoire d'hématologie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris.
Alors, une fois que ces prélèvements de moelle osseuse ou de prélèvements sanguins sont réalisés, quelle est la suite en fait, puisque ce prélèvement est réalisé une première fois pour faire un premier diagnostic, alors quelle est votre touche supplémentaire à vous?
Alors, il y a en fait ce qu'on faisait avant la découverte de cette mutation de JAK2, et ce que l'on fait maintenant. Avant, donc, en fait, la mise en évidence de cette mutation de JAK2 dans la maladie de Vaquez a non seulement permis d'expliquer la physiopathologie de cette maladie, et également un très bon marqueur de cette maladie, donc maintenant est un critère diagnostique très utile pour faire le diagnostic de cette maladie. Donc, alors qu'avant, il était nécessaire de faire de multiples examens complémentaires pour faire un diagnostic de maladie de Vaquez. Maintenant, en fait, quand le patient a trop de globules rouges et cette anomalie de JAK2, on est quasiment sûr qu'il a cette maladie. Et la détection de la mutation de JAK2 se fait sur une prise de sang.
Vous parlez donc de cette mutation de JAK2. Mais alors, est-ce qu'il y existerait peut-être une autre anomalie cachée sur laquelle vous travaillez actuellement qui ferait que, effectivement, ça se déclenche, cette maladie?
Alors, il est effectivement possible que, parce que donc, comme je vous le disais au départ, cette mutation de JAK2 est présente dans la maladie de Vaquez. Elle est aussi présente, elle est présente dans 95% des patients qui ont une maladie de Vaquez et dans à peu près 50, 60, 70% des patients qui ont une thrombocytémie essentielle et à peu près 50% des patients qui ont une myélofibrose. Si je suis volontairement un peu évasif sur le chiffre chez les patients qui ont une thrombocytémie essentielle, c'est parce que la fréquence dépend de la sensibilité de détection de cette anomalie dans le sang. Donc, cette anomalie de JAK2 est présente donc dans trois maladies qui sont pourtant des maladies, certes, qui ont des points communs, mais en même temps qui sont quand même des maladies relativement différentes.
Oui, quand même. Oui.
Et donc, pour expliquer qu'une seule anomalie soit commune à trois maladies, il y a plusieurs hypothèses, dont l'hypothèse qu'effectivement, il y aurait un autre événement en plus qui, lui, modulerait en fait le phénotype. Donc, de toute façon, il serait nécessaire d'avoir la mutation de JAK2 plus autre chose qui du coup... rendre la maladie plutôt maladie de Vaquez, thrombocytémie essentielle ou myélofibrose. Donc effectivement, pour essayer de décrypter un peu si cette hypothèse est juste, il nous est toujours nécessaire de travailler sur des prélèvements sanguins ou de moelle osseuse de ces patients pour
donc
tester cette hypothèse.
C'est ce sur quoi vous travaillez actuellement pour voir quels seraient les autres événements qui interviendraient dans le déclenchement de ces maladies.
Alors, il y a une partie de ce travail qui est effectivement réalisée au laboratoire de William Wenschenker à Villejuif. Moi, plus particulièrement, le travail que je développe actuellement est d'étudier en fait les cellules souches hématopoïétiques. Alors ça, je peux vous en dire deux mots. En fait, l'hématopoïèse, donc l'hématopoïèse, ce terme un peu compliqué, ça veut dire production par la moelle osseuse des cellules sanguines. Et en fait, l'hématopoïèse, on pourrait la schématiser par un triangle, avec en haut du triangle des cellules souches, où il y a assez peu de cellules souches, mais ces cellules souches, elles ont la capacité de se diviser et également de s'auto-renouveler. C'est-à-dire qu'une cellule souche peut donner une deuxième cellule souche, mais elle peut également donner deux cellules filles qui sont plus différenciées. Et donc, en fait, plus les cellules se différencient, plus elles sont capables de se diviser. C'est pour ça qu'on peut voir ça comme un triangle. Donc, il y a assez peu de cellules souches, et puis plus on va vers la différenciation, donc vers la maturation, et vers les cellules matures du sang, plus il y a de cellules. Alors, très peu de cellules souches, des progéniteurs immatures, puis des progéniteurs matures, puis là, les cellules sanguines qui, elles, sont très différenciées, et plus on se différencie, plus on se multiplie aussi, donc, dans ce processus de l'hématopoïèse.
Alors, en quoi cela va-t-il jouer dans ces trois maladies ?
Alors, ces maladies sont, depuis de très nombreuses années, décrites comme des maladies de la cellule souche. Donc, l'anomalie initiale surviendrait dans une cellule souche. Alors, ce postulat, en fait, dérive du fait que, par des techniques qu'on appelle des techniques de clonalité, on s'était rendu compte que dans le sang, en fait, toutes les différentes populations sanguines dérivent d'une même cellule. C'est-à-dire que ce soit les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs, les lymphocytes, tous dérivent en fait d'une même cellule souche. Et notamment dans la leucémie myéloïde chronique, où je vous disais tout à l'heure que cette maladie est bien étudiée depuis de nombreuses années, on connaît l'anomalie moléculaire. On sait que l'anomalie moléculaire dans la leucémie myéloïde chronique est présente dans toutes ces cellules matures du sang. Donc forcément, ça veut dire que l'anomalie initiale a dû survenir dans une cellule très tôt dans l'hématopoïèse, donc dans une cellule souche. Donc on sait ça pour la leucémie myéloïde chronique, pour la maladie de Vaquez, la thrombocytémie essentielle et la myélofibrose, on le pense, mais maintenant qu'on a l'anomalie moléculaire, c'est beaucoup plus simple de voir si cette anomalie est également présente dans une cellule souche. Et ça, c'est le travail qui est actuellement réalisé, où effectivement on pense que oui, il y a certains arguments qui permettent de l'affirmer, et il est nécessaire de réaliser encore d'autres expériences pour pouvoir l'affirmer véritablement.
Et ces expériences, alors, pareil, prennent beaucoup de temps, c'est sur plusieurs années,
Il est nécessaire d'avoir... Donc il y a une partie des expériences qui sont réalisées à partir des cellules des patients, donc il est très important d'avoir une coopération entre les chercheurs et les médecins hospitaliers qui voient les patients pour qu'on puisse avoir des prélèvements qui permettent d'avancer dans la compréhension et de faire avancer ces recherches. Et il y a un deuxième abord de la question qui lui utilise des techniques sur des cellules normales dans lesquelles on va introduire cette anomalie et de voir si l'introduction de cette anomalie dans des cellules souches normales va modifier les propriétés des cellules souches.
Alors là, on est sur l'aspect de la découverte. Une fois que ces anomalies sont découvertes, il y a la partie traitement. Alors, quel est l'état actuel des choses ? Est-ce que entre la partie découverte de cette protéine JAK2 et puis la partie médicamenteuse, la partie du traitement, quel est le nombre d'années qui va s'écouler encore ?
Oui, alors, juste, c'est la découverte de la mutation de JAK2, parce que la protéine JAK2, on la connaît depuis très longtemps. Là, c'est une mutation de JAK2 qui fait que JAK2 est constitutivement actif. Donc, pour ce qui est du traitement, les traitements sont actuellement toujours les mêmes. Alors, donc, on va là encore reprendre l'exemple de la leucémie myéloïde chronique. Dans cette maladie, donc, qu'on connaît depuis de nombreuses années, on connaît bien l'anomalie moléculaire. En fait, la connaissance précise de cette anomalie moléculaire a permis le développement d'un médicament développé par l'industrie pharmaceutique qui cible spécifiquement, de façon quasi spécifique, on va dire, cette anomalie, l'anomalie de la leucémie myéloïde chronique, et ce qui a permis de nettement améliorer le pronostic de cette maladie, d'autant que c'est un traitement qui se donne maintenant par comprimé, donc relativement facile à prendre, alors qu'avant, on réalisait plus d'un traitement par interféron, donc des piqûres, ce qui était moins pratique pour les patients. Donc effectivement, le développement de la recherche, la meilleure connaissance des maladies permet le développement de thérapies ciblées. Alors pour ce qui est donc de la découverte de cette mutation de JAK2 dans les autres syndromes myéloprolifératifs, on connaît donc l'anomalie. On n'en est pas encore malheureusement au développement d'une thérapie ciblée.
D'accord.
Alors ça c'est surtout en plus des choses qui sont réalisées par l'industrie pharmaceutique et non pas par la recherche
fondamentale.
Oui, INSERM, CNRS ou même des unités de recherche américaines. C'est vraiment le travail de l'industrie pharmaceutique. D'autant qu'il nous semble assez nécessaire de développer un médicament ciblé contre la protéine JAK2 mutée et un médicament qui serait spécifique de cette mutation de JAK2 et pas un médicament qui puisse agir contre le JAK2 normal, puisque cette protéine JAK2 à l'état normal est nécessaire à énormément de cellules, intervient dans beaucoup de tissus. Donc, il serait assez dangereux de inhiber la protéine JAK2 normale.
Il ne faudrait pas que ça nuise finalement aux patients.
Donc, effectivement, le développement d'inhibiteurs ciblés, c'est quelque chose qui est en cours de développement par l'industrie pharmaceutique actuellement.
Mais alors, est-ce que vous étiez beaucoup d'équipes de chercheurs à travailler sur ce domaine de ces maladies du sang, finalement, des maladies de la moelle osseuse.
Avant la découverte de cette mutation, en fait, ces maladies, les syndromes myéloprolifératifs non LMC, les leucémies myéloïdes chroniques, je pense, n'intéressaient pas beaucoup d'équipes, puisque ce sont des maladies qui sont assez rares, pas des maladies qui touchent des enfants, plutôt des personnes un peu âgées, qui étaient assez bien jugulées par les traitements. Donc, ce n'était pas des maladies sur lesquelles il y avait beaucoup de recherches fondamentales. Bon, il y a des équipes qui travaillent sur cette maladie, une équipe américaine qui travaille sur les syndromes myéloprolifératifs depuis longtemps, une équipe également en Suisse. Bon, donc cette mutation de JAK2 a été mise en évidence au laboratoire et ainsi que dans d'autres.
Dans le vôtre de laboratoire à Villejuif.
Voilà, dans le laboratoire de William Wenschenker à Villejuif, oui. Ainsi que dans d'autres laboratoires par des techniques tout à fait différentes. L'équipe américaine a plutôt utilisé une technique de détection un peu systématique de plusieurs gènes qui pouvaient être candidats et donc a séquencé énormément de gènes et est tombée sur cette anomalie. L'équipe suisse avait remarqué que chez ces patients, il y avait des anomalies au niveau des chromosomes et donc avait pu essayer de faire le lien et avait remarqué que probablement la protéine JAK2 pouvait être impliquée. Dans l'équipe de William Wenschenker, c'était plus... un travail donc depuis de très nombreuses années sur la différenciation des globules rouges qui se faisait trop rapidement et de façon indépendante de l'érythropoïétine. Et par ce modèle de culture, nous avons pu mettre en évidence cette mutation sur la protéine JAK2.
Donc en fait, par trois méthodes différentes, vous êtes arrivé au même résultat, au même moment pratiquement.
Quasiment au même moment.
Alors actuellement, Chloé James, quelles vont être vos activités et les activités du laboratoire? Ça va être toujours de travailler toujours sur ces trois maladies. Quel va être l'avenir proche?
Alors, pour ce qui est de moi, effectivement, donc là, je réalise actuellement une thèse de science où j'étudie plus particulièrement les propriétés des cellules souches hématopoïétiques qui ont cette anomalie de JAK2. Donc ça, c'est un travail qui commence, qui va poursuivre pendant plusieurs années, que je réalise actuellement dans un laboratoire de recherche à Bordeaux, dirigé par Hubert de Verneuil, en collaboration avec William Wenschenker à Villejuif. Et donc le laboratoire de William Wenschenker à Villejuif, qui travaille certes sur cette maladie, mais également sur d'autres sujets plus fondamentaux. Ils ont toujours d'autres sujets que cette mutation de JAK2, mais effectivement, ils développent également de nombreux projets qui ont trait à cette mutation de JAK2.
Et c'est une grosse équipe, hein, je crois. C'est une cinquantaine de personnes.
Voilà.
Une cinquantaine de personnes. D'habitude, les équipes de laboratoire, c'est quand même une vingtaine.
Voilà, oui. Non, là, c'est une équipe qui existe depuis très longtemps et effectivement qui regroupe de très nombreux chercheurs.
De nationalités différentes, peut-être, qui travaillent.
Des chercheurs de nationalités différentes, surtout des étudiants de nationalités différentes, des étudiants en post-doctorat, donc beaucoup d'étudiants étrangers. Qui fait la richesse d'un laboratoire de recherche.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux étudiants qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être travailler dans le domaine dans lequel vous excellez? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Est-ce que c'est une évidence de travailler dans ce milieu? Est-ce que c'est très difficile de travailler dans la recherche et encore plus dans ce type de recherche?
Je trouve que la recherche est un milieu qui est très difficile parce que il faut avoir effectivement une idée au départ, tout en sachant que quand on a une idée, il faut vraiment un certain nombre de mois, et encore quand je dis de mois, c'est plutôt d'années, avant de réussir à confirmer ou infirmer l'hypothèse de départ, avec souvent de nombreuses embûches qu'on prévoit pas forcément au départ, des problèmes qui sont purement techniques. Et donc effectivement, je trouve que c'est...
Et c'est plus que de la patience.
Voilà, c'est de l'acharnement, il faut vraiment y croire. Après, effectivement, quand on a la chance, et après avoir beaucoup transpiré de trouver quelque chose, c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de se très, dire, très riche.
C'est de se dire, je vais peut-être participer à la découverte de quelque chose de très important pour le développement après de traitement. Qu'est-ce qui...
Mais c'est, enfin bon, ça c'est le côté un peu égoïste, effectivement, c'est de se dire, j'ai contribué à quelque chose, mais je pense que c'est pas ça qui est le plus important. C'est surtout qu'en fait, quand on comprend quelque chose, c'est le début d'une histoire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres questions qui se posent, qui sont intellectuellement très, très riches et très passionnantes.
Si je vous pose la question, c'est parce que vous êtes également médecin, oui. Donc peut-être qu'après vous allez retourner à la médecine, on va dire classique, plutôt qu'à la recherche.
Alors justement, comme c'est notamment en hématologie, c'est un métier qui demande beaucoup de temps et beaucoup de temps auprès des patients. C'est vraiment un travail qui, je pense, se fait à plein temps auprès des patients et pour les patients. Et pour moi, je pense qu'il est difficile de combiner et l'hématologie clinique et la recherche. Alors, il y a certaines personnes qui arrivent et j'en suis assez admirative. Donc, ayant goûté à la recherche et aux joies, et aussi aux déceptions, mais aussi aux joies de la recherche, je préfère du coup m'orienter vers la biologie qui me permet de faire un compromis entre la biologie de routine et donc les patients et la recherche plus fondamentale. Donc, j'ai un petit peu décidé de changer de cursus par rapport à ce que j'avais pensé au départ pour justement pouvoir continuer à faire de la recherche par la suite.
Donc vous souhaitez bonne chance en fait à ceux qui pourraient se lancer dans cette carrière-là de
chercheur. Ah oui, je pense que c'est une carrière qui est très intéressante pour laquelle effectivement il faut y croire.
Quelles seraient les autres maladies dans le domaine de l'hématologie sur lesquelles vous aimeriez vous pencher ?
Donc travaillant dans ce laboratoire qui fait beaucoup d'hématopoïèse, qui cherche à comprendre l'hématopoïèse et la mégacariopoïèse, c'est-à-dire...
La mégacario.
Voilà, c'est un nom qui est un petit peu compliqué, mais l'hématopoïèse, ça veut dire la fabrication des cellules du sang. Et donc, parmi les cellules du sang, il y a plusieurs sortes de cellules, dont les plaquettes. Et la fabrication des plaquettes s'appelle la mégacariopoïèse, parce que les précurseurs des plaquettes s'appellent les mégacariocytes. Donc, cette partie qui va de la cellule souche au progéniteur mégacariocytaire, le mégacariocyte, puis les plaquettes, donc ça s'appelle la mégacariopoïèse. Ça fait partie de l'hématopoïèse. Et donc, le laboratoire de William Van Schenker, le laboratoire s'intéresse également depuis très nombreuses années à la formation des plaquettes, donc à la mégacariopoïèse. Et donc ça, c'est un sujet que je vais développer par la suite en travaillant à l'hôpital sur les maladies des plaquettes, les anomalies des mégacariocytes, éventuellement faire le lien avec les syndromes myéloprolifératifs avec les mutations de JAK2, où on connaît depuis plusieurs années qu'il y a des anomalies de la mégacariopoïèse.
Et puis pareil, touche peu de personnes, ou là au contraire, ce sont des maladies qui susciteraient peut-être plus d'intérêt de la part des autres équipes de laboratoire, parce que toucherait beaucoup plus de monde?
Non, les maladies des plaquettes sont des maladies même plus rares que les syndromes myéloprolifératifs. Donc, c'est des maladies qui sont très embêtantes pour les patients, puisque en général, ils ont assez peu de plaquettes. Quand ils doivent avoir une intervention chirurgicale, ça pose évidemment des problèmes. Ça pose des problèmes pour les grossesses, puisque quand on n'a pas beaucoup de plaquettes, on est à risque de saigner. C'est des maladies c'est pas des maladies qui sont mortelles. C'est pas un cancer, mais c'est une maladie qui pourtant quand même ont des risques et qui sont dans la plupart des cas très peu comprises. Donc c'est des maladies sur lesquelles il faut effectivement développer de la recherche.
Eh bien merci Chloé James d'être venue jusqu'à nous à Canal Académie, à l'Institut de France. Donc je rappelle que vous êtes docteur en médecine et que vous travaillez en collaboration avec le laboratoire de William Van Schenker, qui est encore également votre directeur de recherche et avec qui vous avez travaillé sur les maladies... sur les syndromes myéloprolifératifs.
Je vous remercie beaucoup de votre invitation.
Et puis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Au revoir.